Est-ce la bonne décision ? Est-ce trop tard pour moi ? Prenez vos décisions d'investissement avec le soutien de Clarity AI. Gérez votre portefeuille tout en lui assurant une croissance durable grâce à l'association d'une IA puissante et d'une grande expérience de l'industrie. Notre technologie augmente l'efficacité des processus réglementaires, y compris ceux liés à l'article 29 de la loi Énergie-Climat. Réduisez les risques et atteignez vos objectifs de durabilité en vous basant sur des faits vérifiés et des méthodologies transparentes. Clarity AI, la technologie au service des décisions humaines. Rendez-vous sur clarity.ai et passez à l'action dès aujourd'hui.
Débat et controverse sur BFM Business. Nicolas Dose accueille les experts.
Augustin Landier, professeur à HEC, co-auteur du prix de nos valeurs. Quand nos idéaux se heurtent à nos désirs matériels, chez Flammarion, qui a reçu le prix du livre économique de l'année de la librairie de l'Écho d'Emmanuel Lechypre, en partenariat avec Mon Pensier Finance. Mathieu Plane, directeur adjoint du département analyse et prévision de l'OFCE, et Jean-Charles Simon, président de Station, société d'études économiques, et président d'ETF Patrimoine, société d'allocation d'actifs. Bon, ça y est, maintenant c'est les Espagnols qui décident de taxer de manière exceptionnelle ceux qui s'enrichissent en ce moment. Alors, on va éviter les formules provocatrices de profiteurs de crise ou profiteurs de guerre. Non, l'inflation profite à un groupe comme Total, parce que le pétrole est cher, à un groupe comme CMA-CGM, parce que le transport maritime est cher. Mathieu Plane, vous avez un avis là-dessus? Est-ce qu'il faut dire, ben voilà, tout le monde doit payer, donc on pourra parler de la manière dont certains vont payer, certains ménages vont payer, mais aussi les entreprises, et c'est normal.
Bon, que le débat ait lieu, ça me semble pas totalement absurde, effectivement.
Et franchement, je suis de votre avis
que le débat ait lieu. Mais je ne suis pas convaincu, en fait, en réalité, pour plusieurs raisons. La première, c'est que, en réalité, hein, on est face à des multinationales qui génèrent des profits qui sont effectivement énormes, mais qui sont aussi réalisés beaucoup dans le monde.
Ben c'est ça. Et Total Energy était dans le rouge en 2021
voilà,
en France.
Voilà. Et je sais que le chiffre d'affaires total, c'est 25% en France à peu près, mais effectivement, les profits, c'est moins. CMA-CGM. Alors, CMA-CGM, c'est intéressant parce que ça nous permet d'avoir beaucoup d'excédents dans notre balance courante,
oui, hein,
d'excédents
oui,
de service,
oui,
grâce
oui,
au fret maritime. C'est tellement énorme que du coup, ça permet de compenser en partie les déficits commerciaux industriels. Mais ce qui est intéressant, c'est CMA-CGM, ils sont dans 160 pays. Donc, c'est quelle est la base, en fait, taxable, en réalité, si vous mettez une surtaxe d'IS? D'abord, est-ce que vous ciblez uniquement certaines entreprises ou est-ce que vous mettez, si c'est possible, une surtaxe d'IS en fonction du chiffre d'affaires ou des choses comme ça?
Mais en fonction du chiffre d'affaires, on ne peut pas cibler trois boîtes comme
non,
ça
en disant... Non, je pense que c'est compliqué. Je pense que le rendement... La question, c'est qu'en plus, le rendement fiscal... Une fois dessus, il faut peut-être avoir le débat, hein, mais je ne sais pas combien ça rapporterait en plus.
Ben voilà.
Parce qu'il ne faut pas prendre la base fiscale des 15 ou 20 milliards, hein, parce qu'il faut regarder les profits qui seront localisés premièrement en France. Voilà, donc c'est quand même un sujet. Et puis l'autre question, c'est que aujourd'hui, ça va pas forcément améliorer le pouvoir d'achat des Français. Parce qu'il y a un peu cette idée, on va surtaxer, et puis ça fera plus de pouvoir. Aujourd'hui, ça pose la question, c'est plutôt du financement de la dette. C'est-à-dire, est-ce que du coup, on va demander à un moment aux grosses entreprises une plus grande participation à la réduction du déficit public, ce qui n'est pas la question du moment, j'allais dire. Enfin, qui peut l'être, hein. Mais en tout cas, de toute façon, ça changera pas grand-chose à la situation économique actuelle. Donc, c'est plutôt dans une trajectoire budgétaire future. Mais c'est vrai que ça va à l'encontre du discours du gouvernement de dire on va pas augmenter les impôts. Effectivement, s'ils commencent à faire ça, ça. Mais c'est vrai que d'autres pays l'ont fait et qu'à un moment donné, si on doit chercher des ressources fiscales, il va falloir mettre un peu tout sur la table. Quoi.
On voit bien que ce serait surtout politiquement un antidépresseur parce que ça donnerait l'impression que les riches payent. Mais vous l'avez rappelé, enfin il y a des il y a des contraintes juridiques notamment qui font qu'il faut pas rêver. Ce sera, vous avez vu là sur le désendettement, Gabriel Attal, il a considéré qu'il avait 55 milliards de cagnottes comme ça.
Oui.
Normalement on aurait pu penser que ça allait au désendettement, mais on ne sait pas.
Alors ce qu'on ça a fait qu'on a quand même moins de déficit.
On désendette jamais, quoi, c'est ça la vérité.
Ah, non mais enfin on sort quand même d'une crise un peu.
Oui d'accord.
Mais... Non mais déjà on s'en sort pas mal de pas être à plus de 6,5 de déficit public.
Oui d'accord.
Au regard des recettes publiques, mais d'ailleurs c'est un peu étonnant quand vous regardez, c'est un peu technique, mais le taux de prélèvement obligatoire a augmenté depuis le début de la crise de à peu près 0,5 ou 0,6 points de PIB. Ce qui veut dire qu'en fait il y a des rentrées fiscales qui sont quand même importantes.
Alors par rapport à la taxation ou pas, allez-y Augustin. Et puis
je pense qu'il faut serrer les problèmes. Donc il y a le problème faisabilité, légal, combien ça rapporte, est-ce que ça vaut le coup. Donc ça c'est un premier aspect. Et puis l'autre aspect c'est d'un point de vue un peu de théorie économique, est-ce que c'est une bonne idée ou pas. Et donc là je pense qu'il faut la théorie elle dit si on taxe les entreprises avec des taxes spéciales quand elles font des profits, ça décourage l'investissement parce qu'elles se disent que en fait elles vont pas toucher les profits qu'elles anticipent au moment où elles investissent. Alors après, la théorie, elle dit aussi, dans les états vraiment exceptionnels, vous pouvez faire des choses exceptionnelles sans casser votre réputation sur le fait qu'en temps normal, vous vous comportez de manière normale. Alors, pour la France, le fait que d'autres pays le fassent, disons, ça ouvre une possibilité de le faire sans trop entacher la réputation de la France. Mais bon, il y a quand même un arbitrage, disons, il n'y a pas de solution évidente. Ce qui est certain, c'est qu'il faut regarder autour de nous ce qui se fait et surtout pas faire des choses qui se détacheraient complètement du consensus européen sur ce qui est légitime de faire.
Il y a Maxence me dit, c'est quoi une entreprise qui profite de l'inflation ? Ben, vous l'écrivez, Maxence, une entreprise qui profite de la hausse d'un prix dont elle n'est pas responsable. Une forme de rente qui voit ses résultats progresser sans avoir fait des choix stratégiques particuliers. Alors vous écrivez, elle est exposée au risque de baisse du même cours. Oui, c'est absolument vrai. Elle est exposée au risque de... Jean-Charles Simon.
Bon, surtout ce qui, je pense qu'on peut considérer qu'en effet il y a des moments de surprofit. Ça, je crois que c'est il y a pas de problème pour reconnaître
ça. Le premier trimestre de cette entreprise, c'est extraordinaire.
Mais le problème, si vous voulez, c'est qu'il faut d'abord distinguer où. Enfin, je pense que les gens confondent souvent ce qu'ils entendent, par exemple, comme le résultat comptable d'une entreprise comme Total, qui est mondiale, et qui a un résultat, qui est même pas le résultat fiscal, et le résultat fiscal qui est localisé en France est celui qui est localisé partout. Ces groupes peuvent d'ailleurs réagir si jamais elles ont le sentiment que, par exemple, c'est le moment de pas remonter de dividendes ou d'intra-groupe ou des choses comme ça, si c'est pénalisé fiscalement, et donc que ça rapporte finalement très peu. La deuxième chose, c'est que si au contraire elles ont pas vraiment de solution et pour éviter une surtaxe particulière parce que, en fait, le profit se trouve en France, il faut absolument qu'elle le remonte en France. Le risque, c'est que vous ne taxiez en fait que votre groupe national. C'est-à-dire que les concurrents internationaux, eux, qui en France n'ont que des unités en général qui sont à faible profit, je pense aux pétroliers, hein, on sait que les activités, par exemple, de distribution sont souvent des activités qui ne rapportent pas d'argent en la matière. Bon, ces gens-là, ils ne vont absolument pas subir la taxe française. Donc vous allez plutôt désavantager votre acteur national et sa capacité, grâce à ses surprofits, à réinvestir et à faire des choses après, en regard des autres sociétés. Donc là aussi, il y a un sujet de coordination. Que l'Espagne le fasse, c'est une chose, mais si c'est le seul pays...
Pas la tuyauterie de l'Espagne.
Et en plus, surtout, ça veut dire qu'il y a plein de pays qui ne le font pas et qui, du coup, vont quelque part avantager leurs champions nationaux par rapport aux nôtres. Donc, c'est des choses à prendre avec des pincettes. Là aussi, encore une fois, je trouve que ce n'est pas du tout anormal d'y penser. On peut faire des choses. Je vois que, par exemple, sur les banques, il y a quelque chose qui est fait en Espagne. On peut trouver des choses comme ça a été fait au moment de la crise financière pendant la décennie qui a suivi. Les banques ont payé une sorte d'écho et là pour le coup elles ont une bonne partie de leur profit national. On peut trouver des moments où on va dire, là, je ne dis pas du tout qu'il faut faire payer les banques là en ce moment, mais on peut trouver des moments où effectivement il y a un consensus qui pourrait se dégager par une forme de contribution. Mais encore une fois, il faudrait vraiment, ce que disait Augustin, qu'on soit sur l'idée que on est sur quelque chose d'exceptionnel, si possible de concerter, à mon avis, en zone euro, pour au moins pas avoir le sentiment qu'on est vraiment les morts de faim, si je puis dire, fiscalement, à aller chercher...
Les sados fiscalistes,
les seuls de l'Union. Et à ce moment-là, on aurait un problème d'image.
Je me souviens que les meilleurs, quand même, pour faire payer les banques, ont été les Américains. Ils ont laissé le temps aux banques de se refaire la cerise, et une fois qu'elles avaient retrouvé vie, hop, on a traîné les Américaines au civil, et traîné plutôt les étrangères au pénal, c'était plus sympa.
En France, on s'en rend pas compte, mais la décennie 2010 a été une décennie de surfiscalité énorme pour le secteur bancaire.
Oui, et puis il faut rappeler que les banques n'ont rien coûté à l'État, contrairement à ça.
Alors, il y avait quand même l'idée que, effectivement, enfin, pour la question, après, elles ont effectivement remboursé. Mais il y a une forme de garantie.
Ah, il y avait une garantie
de l'État
explicite.
Explicite.
Non, mais c'est pas. Elles n'ont absolument pas contribué au saut de dette publique de l'État.
Non. Le saut de dette publique, il est lié à un choc économique.
Exactement. À l'arrivée, cette histoire a rapporté 2 milliards d'euros aux caisses de l'État.
Et vous vous souvenez qu'il y avait eu un débat Eurostat sur justement une partie de l'activité. Est-ce que c'était l'activité qui devait être intégrée à la dette publique ou pas? Ça n'avait pas été intégré. Je ne sais plus si c'était la SFEF, non?
FSF, je crois.
Enfin, il y avait une structure. Et en fait, ça avait été sorti du calcul à la dette publique, et comme tout a été remboursé et que l'État a même plutôt fait payer des intérêts assez
élevés.
Quel argument,
il faut bien distinguer ex ante et ex post. Dans la vie, il y a plein de choses où vous prenez un risque, les choses se passent bien, vous gagnez de l'argent. Il se trouve que ça a été le cas, on s'est plutôt bien sorti finalement de la crise financière, mais c'était pas écrit d'avance. Donc c'est normal que l'État soit rétribué, qu'il y ait une prime de risque.
Bien sûr, mais l'État, Nicolas Sarkozy avait mis 350 milliards de garanties. Oui, mais ça fait 10 ans qu'on entend tout le temps et je les vois dans les réactions. Ah ouais, mais les banques nous ont coûté cher. Non, les banques ne nous ont pas coûté.
Exposed.
Oui, Exposed.
Exantel fermé.
On va regarder.
Alors,
pas le fermé, j'exagère. Il y en a certaines, y compris françaises.
Il n'y a pas d'autre choix, mais face à un crédit crunch.
Bien sûr. Mais bien sûr.
La fermeture.
Il y en a certaines, y compris des grandes françaises qui ont senti le vent du boulet.
Oui, mais il y en a aussi. Il y en a aussi à ce moment-là à qui on a tordu le bras. Moi, j'étais proche de ces mesures-là. On a tordu le bras parce que le gouvernement de l'époque voulait que le plan soit global et apporte une forme de sécurité globale aux épargnants. Et des groupes qui ne voulaient pas ni de l'aide en capitaux propres, ni de la garantie, qui disait « moi je n'en ai pas besoin et je ne veux pas payer le coût que ça va représenter ». Et parce qu'il y a une proximité quand même assez forte entre les dirigeants du secteur bancaire et les pouvoirs publics français, elles ont accepté pour faire qu'il y ait une image de place collective qui aille avec ça. Mais certaines ne voulaient pas, et il y a d'autres qui étaient en difficulté plus importante, mais certaines ne voulaient pas, et on leur a tordu le bras pour le faire.
C'est la dernière trouvaille probablement en termes de réflexion autour de l'action publique pour préserver le pouvoir d'achat, quand Elisabeth Borne laisse entendre, hein, c'est pas du tout fait, mais laisse entendre qu'on pourrait avoir des prix à géométrie variable en fonction des revenus. Ce qui a amené chez moi cette réflexion un peu tordue, bah, mettons carrément nos ressources enregistrées sur la carte bancaire et tout ce qu'on paye est différencié en fonction des revenus que nous percevons. On pourrait l'imaginer, je suis sûr que techniquement c'est possible. Mathieu, faire payer en fonction des revenus. Toi, tu es dans tel décile, tu paieras ton kilowattheure.
Certaines choses, effectivement, la cantine, des choses
oui,
comme ça.
Oui, oui, oui. Là, c'est gratuité ou pas, mais sous conditions de ressources. Non,
enfin, c'est pas que gratuité. Hein.
Oui, c'est vrai. Il y a une échelle.
C'est vrai aussi. Oui, c'est vrai. C'est vrai pour la crèche. Il y a un certain nombre de services publics comme ça qui sont déjà à fonction du. Le prix est déjà à fonction des revenus. Non, je pense que ça devient très, très complexe, d'abord, à mettre en place. Je suis pas sûr que constitutionnellement, ça peut poser aussi, à mon avis, quelques questions. Du coup, ça risque de se finir par un dispositif d'aide, en fait, hein, plus qu'autre chose. Après, le seul effet que ça pourrait avoir, mais on voit bien, enfin, il y a plein de problèmes, c'est parce que est-ce qu'on met juste une condition de revenu ou est-ce qu'on met aussi une condition de localisation? Est-ce qu'on voit que c'est par rapport à l'énergie? Est-ce qu'on met localisation, mais plus est-ce que je travaille et donc je dois prendre ma voiture ou est-ce que j'ai possibilité d'avoir accès à des transports en commun? Est-ce que cette énergie est substituable ou pas? On voit, en fait, voilà, il y a une histoire de choix. Est-ce que, par exemple, on prend en compte la taille du logement? Est-ce que le prix du logement, enfin, mais voilà. Donc,
est-ce que j'ai des doubles vitrages? Enfin, il y a un moment.
Ce que je veux dire, vous voyez, sur les dispositifs, et en plus, vous avez des seuils dans tous les sens. Ça va être assez affreux, hein, cette histoire, hein, parce que effectivement,
c'est affreux.
Non, mais parce qu'on va arriver dans une logique de ciblage qui est à peu près aussi. Qu'on peut comprendre pour des questions budgétaires
d'ailleurs.
Et des questions effectivement de qui peut absorber le choc ou pas. On peut pas avoir une voilure budgétaire aussi large, plus les incitations que ça peut envoyer. Mais à partir du moment où vous faites du ciblage et quand vous le voulez un peu intelligent ou complexe, ça devient assez vite une usine à gaz et surtout vous avez des effets de seuil un peu dans tous les sens.
Imagine, tu déclares tes doubles vitrages là.
Non mais alors j'exagère double vitrage, mais par
présence
exemple,
de tramway.
Imaginons que le revenu ce soit le seuil soit 1 500 € pour avoir un prix spécial. Celui d'abord, alors faut prendre la structure du ménage, hein, c'est pas juste individuel.
En plus.
Après, est-ce que celui qui a donc 1 550 € mais qui vit dans un petit appartement, il aura le prix fort, alors que celui qui est à 1 450 mais qui a une maison, lui, il va avoir un bénéfice important sur sa facture énergétique. Donc, vous voyez, ça met en tout de suite, ça soulève plein de questions et qui vont créer, en fait, un nouveau, si les prix d'énergie baissent pas d'ici là, hein, un nouveau choc inflationniste pour les ménages qui sortiront des boucliers. Hein. Et donc, on aura risque, en fait, les deux points d'inflation qu'on avait, en moins par rapport à la zone euro, on va avoir une forme de rattrapage par rapport à la zone euro, hein, dans ce contexte-là. Mais il y a quand même la question du coût budgétaire de ces mesures-là, hein, qui sont très élevées. Quoi.
Auguste Alandier.
Bah, d'abord, on n'a pas le choix. On ne peut pas garder les boucliers éternellement, donc on ne peut pas protéger tout le monde. Donc, déjà, on n'a pas le choix. On voit bien qu'il faut à la fois.
Ce matin avec Jean-Charles, on ne peut pas avoir un nouveau ministère du pouvoir d'achat.
Il faut trouver un mécanisme qui protège les plus vulnérables, qui pas trop de gens qui sont des cas particuliers, qui du coup ne sont pas bien représentés dans le filet de sécurité qui sera fourni. Donc il n'y a pas de solution parfaite. Moi, je pense que le chèque énergie est plus simple à mettre en œuvre. Oui, après, il y a une distorsion qui est que tout le monde... c'est pas facile de le rendre contingent. À quoi on le rend contingent? Le débat aussi existe toujours. Est-ce qu'on le donne à tout le monde, pour le coup? Ou est-ce qu'on arrive à rendre ça contingent à la dépendance? Est-ce que vous dépendez de votre véhicule pour aller au travail, etc.? Mais en tout cas, il n'y a pas le choix. On voit bien que là, maintenant, il faut des politiques.
Mais on voit que l'indemnité inflation a été un petit souci quand même. C'est-à-dire que des ménages qui n'avaient pas de voiture l'avaient. alors que d'autres qui étaient juste au-dessus du seuil, et en plus, ça avait prenaient pas en compte la structure familiale, faisait que vous ne recevez pas, alors que vous étiez en zone rurale, vous étiez seul avec trois enfants, vous ne l'aviez pas.
Il y a toujours des distorsions, il faut les limiter.
Par
ailleurs, c'était un dispositif extrêmement large, hein, parce qu'on était sur 38 millions de ménages.
38 millions de ménages.
Donc, de personnes, pardon. Mais je disais ce qu'on disait avant 9h, c'est on ne peut pas être dans l'idée que l'État est là pour faire apporter une garantie de pouvoir d'achat. C'est absolument, c'est aberrant, et l'État n'a pas les moyens d'une promesse comme celle-là. Et donc il faut, je pense, vraiment cibler les plus nécessiteux sur les dépenses qui sont elles-mêmes les plus exigeantes. Donc il ne s'agit pas de rendre toutes les dépenses, quand vous allez au restaurant ou autre, liées aux revenus. Je pense qu'en revanche, un tarif social sur l'énergie, comme d'ailleurs il y a déjà des mesures existantes, c'est quelque chose qui peut se comprendre potentiellement. On peut imaginer ça, mais c'est probablement plus simple en effet de le faire avec des systèmes de chèques. Ce qu'il faut, c'est vraiment, c'est ça où je pense les oppositions en ce moment se trompent et le gouvernement commence à prendre la bonne orientation après s'être lui-même, à mon sens, trompé. C'est-à-dire qu'il faut vraiment ne cibler qu'une petite fraction de ménages sur la condition de revenu. Après, évidemment que ça va créer des biais entre les gens qui ont des gros usages, des petits usages, etc. Mais
toujours, je pense que
c'est, ça, c'est rentrer dans quelque chose dans une usine à gaz qui est quasiment infernale. Donc je pense que le mécanisme, effectivement, du chèque énergie est probablement, de ce point de vue-là, le plus pertinent. C'est-à-dire, vous avez la capacité, en fonction de votre consommation, enfin, de vos revenus et de votre consommation d'énergie, d'avoir une part qui est absorbée dans le choc. Mais pour les autres, il faut garder en plus le signal prix. Il y a le signal prix, a priori, c'est ce qu'on devrait avoir puissance quelque chose, peut-être pas 10, mais en tout cas devrait être de manière forte, avec une taxe carbone sur à peu près tout. Le fait de dire aujourd'hui, quand je vois des partis politiques qui parlent de maintenir le prix du litre d'essence à 1,40€ ou 1,60€, c'est quand même assez délirant. Je veux dire, ça, c'est absolument pourquoi Bernard Arnault irait mettre de l'essence à 1,40€ le litre dans ses véhicules, dans ses véhicules qu'il ne conduit peut-être pas lui-même, mais. Mais dans ces véhicules, tout ça n'a vraiment pas de sens. Donc il faut vraiment avoir cette logique, je crois, des plus nécessiteux sur les dépenses les plus essentielles.
Augustin Landier.
Oui, juste un mot qui est un point un peu hétérodoxe. Je pense qu'il ne faut pas avoir peur aussi de poser la question des politiques de rationnement. Donc en économie, il y a un arbitrage entre le signal prix versus des politiques de rationnement. On dit, vous avez un appartement à Paris, vous n'avez pas le droit de consommer plus de X de gaz pendant l'hiver 2023, qui va être la période terrible.
Les Allemands y vont, hein.
Voilà, je pense qu'il ne faut pas avoir peur de ça et comprendre que pour la population, c'est plus acceptable. Ça répartit l'effort.
Vous voyez ce qu'on dit là. Moi, j'ai eu énormément de réactions il y a deux jours après les propos d'Elisabeth Borne quand j'ai fait la chronique sur BFM TV, parce que la classe moyenne inférieure, elle considère qu'elle n'a rien et qu'elle paye pour les autres. Ouais. Et les messages, les élus, j'en ai lu au moins 10 en début d'émission. Le message, c'était si c'est comme ça, j'arrête de bosser.
Ouais. Mais le rationnement
ça
qui
et
prévaut.
Ça, on m'envoie ce genre de.
L'effet difficile du rationnement, c'est que tu vas te retrouver dans des situations où les gens, par exemple, en général, les plus modestes ont aussi les passoires thermiques les pires, donc les plus gros besoins, toutes choses égales par ailleurs. C'est très complexe de trouver des bonnes mesures bien ajustées. Donc je pense qu'il faut vraiment regarder, vous êtes avec des revenus très faibles, il y a des dépenses qui sont des dépenses essentielles, on vient toucher ça, on vient compenser ça.
C'est important, parce que c'est vrai que c'est assez logique de conditionner ressources, mais c'est vrai que ça pose effectivement la question du plafond de ces conditions de ressources. C'est ce que vous disiez, les effets de seuil, et du coup, quels ménages vont être. Et donc, c'est vrai que, nous parler de la classe moyenne, une partie de la classe moyenne ne va pas en bénéficier, effectivement. Mais en même temps, ils ne sont pas riches. Et donc, du coup, ils vont le sentir quand même, le choc. En plus, c'est un choc très inégalitaire.
Ça crée un sentiment d'injustice.
Voilà.
En ce moment-là,
ça pose des questions de solidarité, etc. Là-dessus, d'acceptabilité de toutes ces mesures.
Qu'on n'arrête pas d'en rajouter.
Bien sûr. Et donc, effectivement, ces effets de seuil sont assez compliqués à gérer. Et puis, c'est un choc qui est très inégalitaire, en réalité, parce que, on avait fait une étude qui montrait que c'était au mois de mars, on avait 5% d'inflation, il y avait 10% des ménages qui finalement étaient moins exposés, avaient à peu près 2% d'inflation, et les 10% des ménages les plus exposés avaient 8%. Et ça, c'était déjà au mois de mars. Ce que je veux dire, vous avez une hétérogénéité, il y a à la fois un choc macroéconomique, qui est effectivement, c'est presque un choc de 50 milliards négatifs sur l'économie française, et puis un choc micro, c'est-à-dire que chacun n'est pas exposé de la même façon. Et le problème, c'est que l'énergie, c'est quand même un bien assez particulier, c'est pas très substituable à court terme. Et donc, c'est surtout le pouvoir d'achat qui va être impacté. Et pour certains, c'est vraiment le reste à vivre qui va poser
d'ailleurs
plein de difficultés. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas des signaux prix, qu'il ne faut pas inciter à plus de sobriété, qu'il faudrait peut-être réfléchir même des rationnements par rapport à ce qui peut se passer sur le gaz.
On peut distinguer des biens essentiels, que sont l'énergie pas substituable, le logement pas substituable et l'alimentaire.
L'énergie est un peu substituable, mais pas beaucoup à court terme.
Mais c'est d'ailleurs, c'était votre étude, je ne sais plus laquelle, avait fait une observation qui allait un peu à l'encontre de la grande idée, l'inflation frappe les plus pauvres. Oui. Et en fait, on expliquait que cette inflation-là, qui normalement touche l'énergie, eh bien, pénalisait surtout justement la classe moyenne inférieure qui bosse, qui consomme du carburant, ce qui est moins fréquent chez des gens qui sont au chômage ou des gens qui n'ont pas d'emploi, qui se déplacent moins.
A priori, ceux qui ont un emploi, ils vont quand même bénéficier du fait que les revenus en moyenne, là aussi, c'est pas inégalitaire, parce que c'est là où il y a de la rareté qu'il y aura le plus d'augmentation, mais ils vont a priori avoir une augmentation des revenus.
Ouais. Mais par exemple, les prestations de retraite, elles vont augmenter de 1 plus 4, ça fait 5. C'est pas sûr que le revenu des actifs en 2022 augmente de 5%. Et en fait, après, quand même, dans l'étude, ce qui est intéressant, c'est pas tellement le niveau de vie qui va créer cette inflation, contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est surtout l'endroit où vous habitez. Mmh. Et ce qui est très clair, c'est que quand vous êtes en zone rurale ou périurbaine, le poids de cette énergie est plus important.
EDF, pourquoi renationaliser EDF ? J'ai entendu pas mal cette question, et c'est vrai qu'on se dit qu'un État à 84% du capital, qui passe à 100%, fondamentalement, dans sa capacité à faire ce qu'il veut de l'entreprise, c'est à peu près la même chose. À 84%, l'État a bien réussi à tordre le bras d'EDF pour lui faire supporter une partie du bouclier tarifaire, même si ça va conduire la dette d'EDF probablement au-delà de 60 milliards d'euros cette année. Est-ce que vous comprenez collectivement pourquoi on veut remonter à 100%. Moi, j'ai ma petite idée, mais la vôtre m'intéresse.
Oui, ça va. Moi, je pense que ça assainit considérablement le débat, parce que justement, de facto, l'entreprise était déjà nationalisée, et du coup, ça crée des débats sur la légitimité du pilotage par l'État. Donc, il y a un moment où je pense que c'est mieux de clarifier la situation, plutôt que de s'exposer à des critiques légales aussi sur le pilotage par l'État de cette entreprise. Donc, ça, à mon sens, c'est une clarification d'une situation de fait.
Et puis, à 8,80 l'action, effectivement, quand c'est rentré à 32.
Je comprends pas pourquoi on fait, alors ça change pas l'actif net, mais on fait un effort de trésorerie sur des minoritaires qui apparemment sont là et sont prêts potentiellement. En plus, on pourrait imaginer qu'on fasse qu'ils prennent part à des efforts de recapitalisation, puisque visiblement c'est un peu l'avenir d'EDF de devoir chercher beaucoup de ressources nouvelles par rapport aux investissements dont il a besoin. Donc je vois, on en fait tout ce qu'on en veut. Est-ce qu'il y avait des risques juridiques de mise en cause de l'État en tant qu'actionnaire majoritaire? Je suis pas certain, parce que finalement il y a plein d'actionnaires majoritaires qui fonctionnent de la même façon, on va dire qui répriment un peu les minoritaires à ce moment-là. S'il faudrait demander par exemple aux actionnaires minoritaires de Vivendi s'ils sont super contents du prix d'achat d'Havas, qui était la propriété de l'actionnaire majoritaire, donc on peut faire plein de trucs comme ça. Je suis pas sûr qu'il y avait des risques. Et pour ce qui est de l'argument qui est souvent mis en avant des taux d'emprunt de EDF, là aussi je pense pas qu'en tout cas là, à ce moment-là, la renationalisation ne suffit pas. Il faut aussi changer la nature juridique si on veut vraiment qu'il n'y ait plus de prime de risque sur EDF par rapport à ce que
il y a la garantie
aujourd'hui.
Implicite.
Donc aujourd'hui, il y a déjà la
garantie implicite de l'État
est là. Donc je suis pas sûr que ça va changer parce que effectivement les ratings d'EDF avaient baissé, mais je suis pas sûr que ça changera les taux obligataires d'EDF.
Moi, ma théorie, c'est qu'en 2025, l'arène à l'accès au nucléaire historique à prix cassé que EDF vend à perte va disparaître, et que l'État veut reprendre la main sur les tarifs d'EDF pour probablement augmenter ses tarifs.
Pourquoi ils ne pourraient pas le faire aujourd'hui? Parce que les minoritaires ne seraient pas contents de ça, mais à ce moment-là, c'est... Enfin, je veux dire, il y a plein de choses.
Le problème, Jean-Charles, c'est que...
Je trouve ça formidable qu'ils existent.
Mais
parce qu'il y a des gens qui sont prêts à acheter des actions EDF.
Je vais au bout de l'histoire.
Et à participer à des augmentations de capital, il faut en profiter. Quelque part, c'est
l'idée, c'est que si l'État, dans 2 ans, veut réécrire sa propre grammaire tarifaire de l'électricité en France à sa sauce, il faut convaincre Bruxelles pour ça. Pour convaincre Bruxelles, à ce moment-là, le ministre va à Bruxelles en disant « Vous me laissez faire ma tambouille avec les tarifs d'électricité et moi, je vous refais le projet Hercule que vous demandez. » Je ne sais pas
en deux. Je ne vois pas en quoi il aurait moins de risques en matière d'aide d'État. J'irais même à
dire qu'il
y en aurait presque plutôt plus.
Je sais pas, EDF, ça vous inspire, Mathieu?
Non, après, je suis plus ou moins d'accord avec ce qui a été dit. C'est vrai que d'un côté, je trouve que ça clarifie le débat qu'il soit à 100% actionnaire. En même temps, est-ce qu'effectivement, à 84%, ça l'empêchait de faire. Voilà, donc,
on sort 6-7 milliards.
Alors après, je sais pas qui sont les actionnaires minoritaires aussi.
Ah, c'est du flottant, parce qu'en fait, c'est du flottant historique de 2005, oui. Qui est une très très belle opération de réussite d'actionnariat populaire.
Ça a quand même été vendu avec tambours et trompettes à 32 litres. C'est monté à 80 et ça vaut 8.
De mon point de vue, ce qui aurait été formidable à ce moment-là à faire, c'est en 2007. Au moment où on était au pic où EDF valait des fortunes, là l'État aurait dû céder les 35% au moins et en garder que 50. Et aurait fait une très très belle opération.
Là, il serait plus embêté aujourd'hui pour fixer les prix quand même, à 50%.
Moi, je pense qu'on ne sert pas le capitalisme actionnariat en entretenant, disons, ce genre de situation.
C'est un peu ambigu.
Comme dit Augustin, au moins, ça clarifie les choses.
Non, mais surtout en période de crise énergétique. Quoi. C'est-à-dire que là, effectivement, c'est un des éléments hyper importants pour lutter contre le
problème. Personne n'est piégé avec l'action EDF. Elle est cotée.
Non, mais l'État doit être exemplaire.
Et puis, il y a les investissements dans le nucléaire.
Je trouve que ça...
Et je suis convaincu de mon truc. Ils vont aller échanger le projet Hercule contre la renégociation.
Et vous allez perdre, au passage... de la transparence sur les comptes de cette entreprise.
Pourquoi ?
Parce qu'aujourd'hui, le fait d'être coté, la cote d'EDF va être une perte d'informations et de connaissances du groupe.
On a bien des informations comptables sur la SNCF.
On en a moins. Ah oui. On n'a pas les mêmes rapports annuels avec l'obligation de respecter l'ensemble de ce qui doit être publié pour une entreprise cotée.
On sait qu'elle vit en fonds propres négatifs.
Oui.
C'est d'ailleurs une particularité à peu près unique au monde. Hein.
Non, mais après, c'est vrai qu'il y a des sujets de legacy, il y a des sujets de réseau, et il y a des sujets en l'occurrence, pour EDF, il y a le sujet du parc nucléaire. Donc, évidemment, moi, je suis d'accord pour l'idée qu'on fasse ces clarifications fortes, comme on a essayé de le faire avec RFF, et puis ensuite à SNCF, de changer aussi le statut de l'entreprise, d'accepter les directives européennes sur la concurrence, etc. Donc tout ça peut s'envisager. Je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, il y avait besoin d'aller sortir les 7 milliards ou 6 milliards.
On est en train de dire 10, parce que là, le marché fait un peu de surenchère.
Quel que soit son avis, en tout cas, ce qu'il fallait faire, c'était déposer l'offre et avant de le dire. De faire tout politiquement. Oui. Parce que là, EDF a pris 20% depuis l'annonce d'Elisabeth Borne, depuis le discours de politique générale. Donc, il y a un vrai sujet de bonnes annonces, bonne communication.
On trouve le point du début, il y a un petit truc à fixer sur les
réactions de Nicode qui me dit pourquoi pas une prime essence totalement déchargée, défiscalisée pour les salariés, sachant que, compte tenu des taxes sur l'essence, l'État n'est pas perdant et cela peut-être pourrait ramener des chômeurs vers l'emploi, m'écrit Nicode. L'étude du CAE là, qui a essayé de sonder un petit peu les cœurs sur la taxe carbone, tout le monde dit qu'il faut une taxe carbone, mais personne ne veut payer.
Alors, ceci dit, le produit de la taxe carbone, qu'il soit réemployé, notamment exactement dans le sens de ce qu'on a évoqué juste avant.
Pigou vient.
Exactement. Pigou vient. Voilà. Donc, on vienne aider les nécessiteux, les gens qui se disent je vais pas bosser parce que ça me coûte trop cher. En essence, tout ça a du sens.
Mais bien sûr,
donc,
ça doit pas
être en soi, effectivement, une recette fiscale positive.
Je caricature un peu cette étude. C'est là-dessus qu'elle s'arrête.
Ça doit être non plus quelque chose payé seulement par 5% des personnes.
Bien sûr.
Parce qu'à ce moment-là, il n'y a plus du tout d'effet. Si c'est juste de taxer les très riches, il n'y aura pas d'effet en termes de comportement.
Et c'est justement parce que elle n'était pas redistributive, parce qu'elle n'était pas pigouvienne, qu'on a eu les gilets jaunes, explique Stéphanie Stancheva, qui est...
Je ne suis pas sûr que les gilets jaunes aient fait ce raisonnement complet.
À l'époque, c'était de la pure taxe. Quoi, voilà.
Mais non, pure taxe, au moment où il y a eu la baisse de l'ISF, qui a quand même un peu déclenché les foudres là-dessus. C'est-à-dire qu'il y a eu cette taxe carbone n'était pas fléchée vers la transition énergétique.
C'est un an après. Moi, je pense que c'est beaucoup plus que 80 km/h. C'est un an après.
Les 80 km/h, ça n'a pas aidé.
C'est beaucoup plus les 80 km/h et le fait qu'on augmente une taxe sur l'essence tout simplement.
Augustin Landy avec nous aujourd'hui, Mathieu Plane, Jean-Charles Simon, on se retrouve demain à 9h.